Bienvenue sur
Les Ados de la Radio,
présenté par
Sarah,
Gabriel,
Cléa,
Alphonse,
Raphaël,
Chloé,
Lindsay.
Bonjour et bienvenue dans cette 5e émission et malheureusement la dernière de cette année magnifique. Et d'ailleurs, quoi de mieux que de parler de l'été avec Sarah qui nous demande ce que nous allons faire cet été. Et pourquoi nous avons hâte d'être en vacances. Raphaël, lui, nous parlera des événements sportifs de cet été 2026. Alphonse nous expliquera tout sur cette éclipse solaire partielle d'août 2026. Et je vous donnerai des infos et vous fera changer d'avis sur une activité que l'on déteste presque tous, les cahiers de vacances. Gabriel animera un débat sur la mini-réfigation, est-ce que ça existe. Et avec Chloé, nous répondrons à la question en quoi les représentants de l'amour chez Disney renforcent les stéréotypes de genre. Et voilà, moi, je vous souhaite une bonne émission et à tantôt Sarah.
Bonjour, alors dans cette discussion, on va parler des différentes activités qu'on peut faire pendant nos vacances d'été et on va essayer de voir si vous, vous avez déjà des idées, parler un peu de votre vie en général et voilà. Donc est-ce que quelqu'un veut commencer à parler de ce qu'il va faire pendant les vacances ou quoi que ce soit ?
Bah pendant mes vacances, je vais faire la fête de village, la fête de mon village, la feria, ça dure 4 jours, du 10 au 14 juillet à Agnan. La journée, il y a des activités différentes. La soirée avec les différents DJ. Le premier DJ du 10 juillet, ce sera DJ Kassou et tout ça. Et après, pendant les vacances, je sais pas, je vais sortir avec mes potes.
Alors bonjour à tous. Moi, clairement, pendant mes vacances, je crois que je vais faire de la piscine, déjà, hein. Parce que à mon avis, avec la canicule qu'il va avoir, on va pas tenir bien longtemps. Sinon, après, je vais faire, je vais pas faire grand-chose, moi, parce que j'ai pas le droit de sortir de chez moi. Donc, oui, non, je vais pas, je vais vraiment pas faire grand-chose, je vais rester chez moi, c'est tout.
Alors, je pense que je vais beaucoup voyager, déjà, enfin, surtout en France, mais je vais aller à la mer, et après, je vais aller au Festival d'Avignon aussi, et j'aime beaucoup visiter des musées, faire des activités culturelles, et quand je reste chez moi aussi...
Quel type de musée t'aimes visiter ?
Alors, ça dépend beaucoup, mais il y a un musée... j'aime beaucoup le musée d'art moderne à Paris. Et bon, le musée le plus proche de chez moi, c'est le musée de l'ODEV, donc j'y vais souvent. Et avec ma grand-mère qui habite à Montpellier, je visite aussi beaucoup de musées de Montpellier, de divers et variés.
Ben, il y aura mes grands-parents chez moi pendant 2 semaines. Après... Je reste 1 semaine chez moi et je vais chez ma grand-mère, mon autre grand-mère, pendant 1 semaine. Et après, bah, je reste chez moi.
Bah, moi, je vais partir voir mes grands-parents. On va aller faire du camping avec toute ma famille aussi. Je vais passer 1 semaine avec ma mère et mon frère. 1 semaine avec ma mère, avec mon père et mon frère. 1 semaine tout seul chez moi. Je vais sortir avec des potes, aller me baigner à la mer, la rivière, la piscine, n'importe où. Et voilà.
Moi, personnellement, je pense que je vais sûrement, du coup, comme beaucoup ici, remonter pour voir mes grands-parents, sortir avec des amis, faire des soirées pyjama, me baigner, enfin bref, faire des activités sympas.
D'été.
Oui, voilà, d'été. Sachez que c'est très simple de trouver des activités à faire dans votre région. Je crois que le site que j'avais trouvé, il s'appelait Funbooking, je crois. Je suis pas sûre, par contre, mais je pense que c'est ça. Et dans ce site, on peut retrouver, vous pouvez directement mettre votre région et vous trouvez plein d'activités proposées par différentes personnes que vous pouvez faire proche de chez vous.
Pour, comme tu dis, la région, mais est-ce que tu parles de la région Occitanie ou Languedoc-Roussillon ?
Pour t'expliquer, en fait, c'est vraiment un site où des personnes vous mettent des annonces d'activités qu'ils font dans leur département, région plus large, même pays. Je crois. Et là-bas, tu vas pouvoir mettre ta région. Et toutes les personnes qui ont posté leurs différentes activités, tu vas pouvoir regarder, voir leur prix, à combien de personnes, etc. etc.
D'accord. Ben, merci, Sarah.
Après toutes ces bonnes idées d'activités pour les vacances, on va parler d'une des pires parties, les cahiers de vacances.
Les cahiers de vacances ont été créés par Roger Magnard et ils se sont popularisés en 1930 en France.
Roger Manière lance ses cahiers intitulés « Vacances » en 1933. Grâce à ces cahiers, il aide des élèves à réviser pendant l'été en s'amusant. Les cahiers de vacances se sont modernisés et il y a des cahiers sur des thèmes de dessins animés, style les Pokémon ou bien les Sisters, et des cahiers de vacances pour les adultes ou pour les parents avec des exercices sur soi. Il y a aussi des cahiers de vacances créés par des influenceurs, mais pas pour réviser, mais sur soi-même. C'est-à-dire qu'il va y avoir des exos sur la confiance en soi, sur les troubles des IS, ou bien des exos sur les liens de l'amitié ou l'amour, ainsi que de faire des amis ou gérer une rupture amicale ou amoureuse. Et maintenant, si j'essayais de convaincre les parents pour en acheter à leurs enfants. Chers parents, je sais que vous pensez peut-être qu'un cahier de vacances, c'est un achat en plus, mais celui de chez Viz est différent. Ce n'est pas un cahier de vacances rempli d'exercices compliqués qui donne l'impression d'être encore à l'école pendant l'été. C'est un cahier amusant avec des jeux, des quiz, des activités et un univers que les jeunes aiment vraiment. Au lieu de passer tout le temps sur son téléphone ou à s'ennuyer, ce cahier permet de s'occuper intelligemment tout en s'amusant. Réfléchir à des énigmes ou écrire un peu aide quand même à garder l'habitude d'apprendre. En plus, comme il est basé sur une créatrice de contenu que l'on apprécie, on a plus envie de l'ouvrir qu'un cahier classique. Cela devient un moment de plaisir et pas une punition. Pour environ 10 euros, cela peut occuper plusieurs jours pendant les vacances, les trajets ou les après-midi à la maison. Donc ce n'est pas seulement un cahier de vacances, c'est aussi une activité fun. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des chiffres sur ces cahiers. Environ 4 à 5 millions de cahiers de vacances sont vendus chaque été en France. Le marché représente autour de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Un cahier coûte en moyenne entre 5,60 euros et 6 euros. Certaines collections très connues comme Hachette avec Passeport, Manière ou Nathan vendent presque 1 million d'exemplaires à elles seules certaines années. Des licences à influenceurs, Disney, Pokémon, YouTubers, etc. représentent environ 20% du marché et sont en réelle progression.
Savez-vous qu'il existe des cahiers de vacances de toutes sortes, même le sport? Alors écoutons la chronique de Raphaël sur les grands événements sportifs de cet été.
Merci Sarah. Bienvenue dans ma chronique Les sports d'été. Alors vous savez, tous les sports sont connus et reconnus, mais surtout les sports d'été. Alors sans plus tarder, allons directement avant le foot, avant le rugby, le tennis, avec cette saison folle de Roland-Garros. Nous avons deux finales extrêmement serrées, surtout du côté homme, avec qui opposait deux joueurs de tennis extrêmement talentueux entre Flavio Cobolli et Alexander Sacha Zverev. La victoire est revenue à l'Allemand en 5-7. Cobolli avait breaké sur le deuxième, mais rien n'a fait relâcher les talents incroyables de notre Allemand préféré. Et du côté femme, c'était un petit peu moins difficile pour Mira Andreeva qui s'impose en 2-7 et qui remporte son premier tournoi à l'âge de 19 ans. J'espère qu'on la reverra. Il y a aussi un Français qui nous a beaucoup intéressés, Moïse Kouamé. 17 ans, éliminé au troisième tour de Roland-Garros pour son premier. Moi, je dis, si vous le connaissez, félicitez-le quand même, parce qu'alors, oh là là. Maintenant, une fois que nous avons passé à la balle et la raquette, passons au balle et au pied. Allons voir le foot. Avec la Coupe du Monde, à partir du 11 juin, ben ça a commencé, hein. Les équipes du monde entier vont s'affronter en Amérique du Nord, aux USA, au Mexique et au Canada. Nous allons tous trembler derrière les bleus portés par Kylian Mbappé, Désiré Doué, Barcola, bien d'autres. Enfin, vous connaissez la team. Après le foot, avec quand même un sport avec les jambes, mais sur route, le vélo et le Tour de France. Du 4 juillet au 26 juillet 2026, en partant de Barcelone, pour ensuite arriver aux Champs-Élysées, on va tous pousser derrière nos Français et surtout le jeune qui vient d'arriver. Je ne vous en dis pas plus. En même temps, il y aura les championnats des nations de rugby. Cet événement est sans doute le plus apprécié de tout l'été par les impacts et le fair play que tous les joueurs ont entre eux. Mais aussi, il y a le rugby qu'on pense un peu moins à regarder, c'est le rugby à 7, qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps, avec une victoire française sur le sol français à Bordeaux, qui se sont imposés face aux All Blacks. Victoire impressionnante, si vous l'avez regardé. Vous avez vu que c'est un gros match. Mais bon, oublions le rugby, les impacts, allons vers un sport beaucoup plus rafraîchissant, la natation. Nous soutiendrons tous Léon Marchand, bien sûr, qui nous fera trembler. Attention, pas de froid, lui, il aura une serviette. Non, mais de bonheur, de peur, d'exploit et de stress, car on va en voir des belles choses avec lui. Mais bon, après ça, c'est comme le triathlon, une fois qu'on a fait le vélo, faut retourner, une fois qu'on a fait la piscine, pardon, retournons au vélo, avec le Tour de France féminin. Maintenant, allons vers un sport, l'athlétisme. C'est pas vraiment un sport, c'est un combiné de sports, mais bon. Pour cette nouvelle édition, nous retrouverons nos jeunes Français, et surtout, le champion du monde en titre et celui qui détient le record de saut à la perche, Armon Duplantis. Et bien d'autres. Mais bon, on est tous derrière les bleus. Hein. Après la perche, allons voir le handisport avec la Coupe du Monde de Cécifoot. Encore une fois, nous retrouverons notre belle équipe de France et toutes les autres équipes merveilleuses et prodigieuses. C'était peut-être la dernière fois que je prenais la parole avec vous. Alors merci d'être à vous d'être toujours aussi fidèles aux ados de la radio. Et j'espère que vous allez apprécier votre été. Il sera peut-être chaud, mais agréable, avec la chronique que je viens de vous déclarer. Et régalez-vous avec nos autres chroniques. Et à l'année prochaine, plein de gros bisous.
Le 12 août, il y a la Super Coupe d'Europe entre le PSG et Aston Villa. Et ce n'est pas tout. Retrouvons Alphonse qui va nous parler de l'éclipse solaire qui se déroule à la même date.
Le 12 août 2026, une éclipse solaire totale traversera l'océan Arctique, le Groenland, l'Islande, l'océan Atlantique, le Portugal, le nord de l'Espagne jusqu'à Majorque, offrant une rare opportunité d'observer la couronne solaire. L'obscurcissement du soleil sera d'environ 80 à 85% dans cette région, ce qui rendra le phénomène très spectaculaire, même s'il ne s'agira pas d'une éclipse totale. Pour l'observer en toute sécurité, il faudra utiliser des lunettes certifiées ou un filtre solaire adapté. Vous pourrez en acheter chez n'importe quel opticien ou en ligne dans des sites comme Le Bon Coin ou Vinted. En Europe, la zone de centralité, donc l'endroit où l'éclipse sera totale, se situe dans le nord de l'Espagne, mais l'éclipse partielle sera visible dans toute la France. Où que vous soyez, vous pourrez donc l'observer avec une occultation d'au moins 80%. Plus vous rapprocherez de la zone de centralité, plus l'occultation sera importante. Il ne se produit une éclipse solaire qu'une fois tous les 2 ans environ, mais qui n'est visible que partiellement depuis une zone spécifique du globe et dans sa totalité dans une bande de cette zone qu'on appelle zone de centralité. En Europe, elle durera normalement entre 1 à 2 minutes, souvent autour de 1 minute 30 à 1 minute 50 selon le lieu. Ce sera en fin d'après-midi, vers 19h à 20h selon les pays, mais plus vers 19h pour nous. L'éclipse se produit au coucher du soleil en Europe, soleil très bas sur l'horizon ouest, ce qui est un spectaculaire, mais rend l'observation plus délicate. Sur toute la France, l'éclipse sera partielle mais très prononcée, l'une des plus fortes depuis longtemps. La dernière fois qu'une éclipse solaire a été aussi impressionnante pour la France, elle remonte à celle du 11 août 1999. Pour conclure, j'aimerais rappeler qu'il faut profiter de cette éclipse, car la prochaine aussi importante aura lieu le 3 septembre 2081, mais que celle-ci sera totale cette fois-ci.
Après cette chronique intéressante sur l'éclipse solaire, passons à la chronique de Chloé, de représentation de l'amour chez Disney, et les problématiques des normes relationnelles et des clichés de genre.
Numéro 1, mise en place de l'atmosphère. Percussion, corde, cuivre, chanson. Regarde-la. Douce et fragile à la voix. Elle ne dit rien, elle se taigne, mais ton cœur brûle en secret.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va se demander en quoi les représentations de l'amour chez Disney renforcent-elles des stéréotypes de genre et des normes relationnelles problématiques pour les spectateurs.
Tu l'attends depuis toujours. Si c'est un roman d'amour, faut provoquer l'étincelle.
On voit presque toujours un homme et une femme se mettre ensemble. Et quand une héroïne n'a pas de petite amie, elle devient l'exception remarquée. Pensez à Elsa, dont l'absence de romance est traitée comme un cas à part. Ensuite, l'amour arrive vite, souvent au premier regard. On vous montre l'attirance, comme si c'était déjà l'amour. Et paf, la relation peut commencer, sans parole, ni connaissance réelle de l'autre, comme quand Ariel tombe amoureuse d'un prince après l'avoir à peine vu et sacrifie sa voix pour lui plaire. Dans de nombreux récits, la romance est la solution magique qui efface les épreuves. Un baiser, un mariage, et hop, les malheurs disparaissent. C'est le cas de Blanche-Neige ou de Cendrillon, où le dénouement amoureux résout tout sans que l'on voit vraiment comment les vrais problèmes sont traités. Le mariage et la parentalité sont souvent présentés comme la réussite sociale par défaut. Les fins classiques nous chantent qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, comme s'il n'y avait qu'un seul chemin vers le bonheur. Autre point, on minimise les relations non romantiques, les amitiés et les liens familiaux profonds servent souvent à mettre en valeur la romance, et l'on voit peu de portraits d'amitié complexes. Et attention, certaines scènes floutent le consentement. Embrasser une princesse qui dort, faire courir une jeune femme pour la rattraper romantiquement, ce sont des gestes présentés comme romantiques, alors qu'ils normalisent l'absence d'accord explicite. De surcroît, l'apparence physique est fréquemment le premier critère de l'amour. La beauté est mise en avant pour expliquer pourquoi un personnage est désirable, et cela favorise les standards esthétiques. Ce qui se passe à l'écran se prolonge hors de l'écran. Le marketing vend l'image idéale du couple et des rôles genrés, poupées en robe, coffret mariage, et ces images deviennent des modèles du quotidien. Au total, tout ça façonne les attentes des enfants, jouer à la princesse. C'est souvent rejouer le sauvetage et le mariage comme but ultime. Et même quand Disney tente de changer la donne, le progrès reste partiel. Les héroïnes modernes gagnent en autonomie, oui, mais la romance continue souvent de piloter la narration.
Il y a une dernière chose. Anna, tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée.
Qu'est-ce que tu racontes ?
Et je t'aime de tout mon cœur. Veux-tu m'épouser ?
Oui ! Ah.
Passons maintenant au casting des rôles. Qui fait quoi dans ces histoires ? D'abord, on retrouve des portraits stéréotypés. Les femmes sont souvent belles et passives, tandis que les hommes sont actifs et sauveteurs, comme Aurore qui reste endormie et attend le prince qui la délivrera. Ensuite, les héroïnes sont fréquemment réduites à leur beauté et à des tâches domestiques, et la parole féminine est parfois effacée, ce qui illustre la petite sirène dont la séduction passe par l'apparence et le silence. Parallèlement, les antagonistes sont souvent codés par une dérivation de genre, qu'ils soient efféminés, virilisés ou montrés comme anormaux. Ces traits servent à signaler la méchanceté et associer la différence à la malveillance, construit des stéréotypes dangereux. De l'autre côté, les hommes subissent aussi des injonctions. La virilité, la force et l'action sont mises en avant. Et les figures masculines musclées ou autoritaires servent de modèle pour ce qu'on attend d'un garçon. Quand une femme possède du pouvoir, elle est souvent punie ou déformée. La femme puissante devient sorcière, reine jalouse ou figure ridiculisée, comme si le pouvoir féminin était problématique. Autre problème, les sexualités non hétéros sont invisibles ou réduites à des codes négatifs, si bien que l'absence de modèles positifs renforce l'idée d'une norme hétérocentrée. En prime, les normes corporelles valorisent des corps jeunes et minces, tandis que les autres corps sont caricaturés ou moqués, ce qui impacte l'estime de soi des enfants. Il y a aussi la mise en scène d'une compétition punitive entre femmes. La jalousie et la rivalité féminine sont souvent mises en scène, comme dans Cendrillon, où les demi-sœurs humiliantes servent l'intrigue. Et enfin, ces schémas ne sont pas seulement une question artistique. Ils traversent l'histoire du studio et persistent, même avec quelques héroïnes contemporaines plus autonomes, car la structure narrative traditionnelle et le marketing conservent des traces des modèles anciens.
Miroir magique, écoute. Qui est la plus belle de toutes ?
Au pied des sept collines des joyaux, par-delà la septième chute, dans le logis des sept nains, demeure Blanche-Neige. C'est elle la plus belle.
Blanche-Neige ?
Prenons quelques scènes pour être précis. La petite sirène échange sa voix contre des jambes en croyant que sa beauté suffira à gagner l'amour du prince. Et ce geste symbolise le sacrifice de la parole et du choix personnel pour obtenir l'approbation d'un homme. Blanche-Neige, elle, passe son temps à chanter et à servir. Et c'est le prince qui la délivre, ce qui renforce l'image de la femme servante, récompensée par le salut masculin. Cendrillon, de son côté, subit la moquerie et la violence de ses demi-sœurs avant d'être récompensé par un prince qu'il a choisi selon son apparence. Et cette histoire enseigne que la conformité à une norme esthétique ouvre l'accès au statut social. La Reine des Neiges offre un contrepoids intéressant. Elsa refuse la romance et choisit de s'affirmer seule. Mais son statut de non-romantique est traité comme exceptionnel, ce qui montre combien la norme reste puissante. Enfin, pour illustrer le body-shaming, il suffit d'écouter les premières minutes des 101 Dalmatiens où les commentaires sur le corps des femmes provoquent le rire. Ce rire nous apprend que juger le corps est une activité sociale ordinaire.
Étrange spécimen. Très étrange même. Sûrement pas. Tiens, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Un peu trop courte sur patte. Non. Hé! Ah, ça par exemple. Et voilà qui est alléchant. Oui, peut-être trop aguichant. Oui, beaucoup trop.
Voilà, les films Disney nous ont donné des chansons géniales et des images qui collent à la mémoire. Mais ils ont aussi servi des idées sur l'amour et le genre qui sont dérangeantes. Dire « c'était une autre époque » ou « c'était juste un conte » ne suffit pas. Mieux vaut parler de ces histoires avec les enfants, expliquant les stéréotypes et proposer d'autres modèles. Gardons la magie des chansons, mais... posons-nous la question. Quand on entend « Ils vécurent heureux », heureux selon qui ?
Maintenant, imaginez si votre princesse Disney préférée se fasse friendzone dès le début de l'histoire. Pourrait-elle rester amie avec le prince ? Nous allons essayer de répondre à cette question avec une discuba sur la friendzone et l'amour en général. Alors, dans cette discuba, nous allons parler de l'amour et de la friendzone en général. C'est-à-dire qu'on va un peu demander vos expériences ou même juste savoir votre avis sur certaines choses.
Déjà, Sarah et Gabriel, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner la définition de friendzone, s'il vous plaît ?
La friendzone, c'est quand tu es amoureux ou amoureuse d'une amie et que cette personne, quand tu vas lui annoncer ses sentiments, eh ben, elle va te dire « non, je préfère juste qu'on reste amis » ou elle va te dire « je préfère la situation amicale que la situation amoureuse ». Soit après une déclaration, soit que c'est vraiment, mais vraiment évident. Donc maintenant que nous avons défini ce qu'est la friendzone, pour vous, est-ce que la friendzone existe vraiment ou est-ce que c'est plutôt un mythe ?
Non, vraiment, là, je pense que c'est plus vers un mythe.
Bah, moi je pense que ça existe vraiment parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et ça peut arriver à n'importe qui d'être amoureux d'un de ses potes ou d'une de ses potes et lui déclarer ses sentiments et qu'il te mette un râteau, quoi.
Bah, pour moi, bah, c'est pas un mythe. Enfin, ça existe vraiment, quoi, parce que...
Tu t'es déjà fait friendzoner ?
Bah, la friendzone, c'est quand tu dis à la personne que t'aimes que tu l'aimes et que l'autre personne veut qu'on reste amis. Pas non,
ou alors
on se parle plus.
Big râteau.
Bah, un râteau, c'est pas pareil. Un râteau, il veut plus être ami avec toi.
Ça coupe, un râteau. La friendzone.
Ouais, genre ça coupe. Et alors que la friendzone, tu restes ami avec la personne.
Un râteau, la personne, elle peut être. Tu peux ne pas avoir parlé à la personne avant, tu vois ce que je veux dire ? Genre juste une connaissance vite fait ou quoi que ce soit. Donc maintenant, imaginez que vous êtes amis avec une personne et que vous tombez follement amoureux de cette personne. Comment vous réagirez si cette personne vous disait la fameuse phrase « je préférerais qu'on reste amis » après votre déclaration ?
Si on me dit « ouais, on reste juste amis », en vrai, je le prendrais mal. Mais je le prendrais moins mal qu'on me dise « ouais, non, je t'aime pas ».
Mais je le prendrais tellement, mais tellement mal.
Maintenant, j'ai
mais
juste...
Non, mais genre... T'as des sentiments pour quelqu'un, tu lui annonces, tu lui dis, écoute, vraiment, je pense qu'il peut avoir plus qu'une relation amicale, et l'autre te dit, ouais, non, c'est bien d'être ami. Mais dans ta tête, ça fait boum! C'est pas permis! Genre, tous les sentiments que tu penses pour elle, que t'as pensé depuis longtemps, et que tu gardes dans ta tête, et le jour où tu lui dis, en fait, elle réagit comme si, en fait, tu lui donnais une peau de banane pour le jeter à la poubelle.
Mais pourquoi ? Parce que de rester amie, c'est cool quand même. Ça veut dire que la personne, tu vas la garder aussi près de toi tout
mais
le temps.
Mais oui, non, mais, ouais, mais... dans le sens quand même où t'as des sentiments. C'est dur parfois de l'avouer à des sentiments. Moi, ça m'est arrivé. Un jour, j'avais des sentiments pour une personne. Je lui ai dit, mais elle s'en est foutue, mais comme l'an 40.
Mais oui, mais si elle te dit, oui, je veux juste qu'on reste amis, nanana, elle veut quand même rester en contact avec toi. Et elle a quand même des sentiments pour toi, mais amical. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Non, mais alors qu'Arato, ça veut dire qu'elle ne veut plus te parler, elle veut couper les plombs. Elle ne veut plus rien. Genre.
Non, mais je sais.
Ah, voilà.
Donc maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que vous pensez, vous, que même après vous êtes friendzoné, est-ce que vous pouvez sortir de cet état, recommencer et que la personne, cette fois-ci, réponde juste à vos avances? Je ne vous demande pas d'être non plus un énorme forceur, d'aller voir la personne toutes les deux semaines en lui disant « S'il te plaît, sors avec moi !» puisque faut pas faire ça, c'est bizarre. Mais si jamais, par exemple, vous restez amis et que vous voyez que ça se redéveloppe, est-ce que vous pensez que c'est possible de redemander et que la personne accepte votre demande?
Bah, à mon avis, c'est qu'on peut tous sortir de la friendzone un jour ou un autre et que même si c'est pas la personne qu'on aurait voulu avoir, on aura toujours la bonne personne. Et moi, je sais que je me suis fait friendzone par cette personne avant et que là, maintenant, bah, je suis avec la personne. Mais c'est pas parce qu'on s'est fait friendzone qu'on peut pas sortir avec la personne. Enfin... Et puis même si la personne, elle veut pas sortir avec nous, bah, c'est pas grave, on trouvera bien la femme ou l'homme de nos vies, enfin, je sais pas.
Elle dit que c'est logique que tout le monde arrive à trouver l'amour ou l'amour de sa vie, mais c'est pas forcément logique. Il y a des personnes qui sont jamais amoureuses et des personnes qui n'ont pas envie aussi d'être amoureuses.
Oui, non, mais dans le sens logique, c'est dans le sens... parce qu'on finira bien, genre, au moins avoir des sentiments un peu plus amicaux envers une personne. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Chloé?
Non. Mais une personne peut aimer quelqu'un qu'il n'aimera jamais en retour.
Bah oui, voilà.
Mais ça va pas forcément se finir dans l'idéal, oui, en fait.
Il y a 7 milliards de personnes sur cette planète.
8 milliards.
Donc, 8 milliards. Donc maintenant, les personnes qui sont focalisées sur une personne pendant trop longtemps et qui voient que ça marche pas, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres personnes. Je dis pas que la personne devant toi, elle est inchangeable. Mais il y a d'autres personnes. Surtout que nous, on est au collège. Je pense qu'on a le temps de trouver des personnes. Et je pense pas qu'on doit se dire c'est lui l'homme ou la femme de ma vie, tu vois.
Bien dit, Sarah. Non, mais c'est vrai, quoi. On est jeune et on a le temps. On n'est pas forcément obligé de le trouver au collège. Oui. Même s'il y a des grandes histoires d'amour qui ont commencé au collège, nous... On a entre 11 et 16 ans, on a largement le temps, quoi.
On n'a même pas 16 ans. On a 15.
Voilà, en plus.
Merci pour tout le monde d'avoir participé à cette discuba. Et maintenant, nous allons passer à la conclusion.
Félicitations à tous et à toutes pour cette émission chaleureuse sur le thème de l'été et de l'amour. Nous remercions tous les membres du Club Web Radio pour ces chroniques raffinées et captivantes. Après les avoir écoutées, nous sommes prêts pour des vacances d'été festives et sportives. Peut-être aurons-nous enfin compris à apprécier les carnets de vacances avec la chronique de Cléa. De plus, pour nous, la friendzone n'est sûrement plus une zone sombre et inconnue. Et maintenant, aurons-nous un œil plus méfiant envers les dessins animés Disney? A bientôt, on se retrouve sur les ados de la radio après les prochaines vacances scolaires.
A bientôt, tchao, plein de gros bisous à tout le monde.
Allez. Les mains tendues haut dans le ciel, j'attrape un morceau de soleil pour toi. Aucun moment n'a son pareil, c'est un petit renaissance à chaque fois. Toi et moi, c'est tout ce que mon cœur voit. C'est la lune sur la mer qui brille de mille feux. C'est la vie qui scintille dans mes yeux. Marcher avec toi sur le boulevard, puis colorer la ville en chemin. Pas besoin de casser le toit pour savoir que la pluie sur mon visage fait du bien. Alors danse-moi le vent, chante-moi qu'on est toujours enfant. Et si tu le sens, laisse-moi cueillir le soleil derrière ton sourire. Toi dans les yeux. lettre sur le papier qui dessine la flamme de ta lueur. Besoin de rien, fais-nous voyager sur les sentiers qui mènent à ton cœur. Danse-moi le vent, sente-moi qu'on est toujours enfant, toujours vivant. Je veux cueillir le soleil derrière ton sourire. Toi et moi, c'est tout ce que mon cœur voit. C'est la lune sur la mer qui brille de mille feux. C'est la vie qui scintille dans mes yeux. C'est la vie qui préfère être.